France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Le Tarn-et-Garonne vous invite en ce moment à un voyage musical dans les musiques baroques du monde. Passion baroque se déroule autour de 10 lieux de spectacle à Montauban et dans le département pour une large évocation des musiques baroques d'Europe, d'Amérique latine et d'Extrême-Orient. Étonnant mélange, le programme proposé jusqu'au 13 octobre est aussi dense que varié, voire parfois inattendu. Les traits d'union passion.fr pour le site. Dans le même département, nous attend Bruno Collin, propriétaire de La Cheminée, ancienne manufacture de chapeaux à Sept-Fonds. Et puis nous rendrons visite à Patrick Ardon, fondateur de La Chabraque dans l'Aveyron, un centre d'accueil et de formation au métier du cheval.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Bruno Collin, bonjour.
Oui, bonjour.
On a plein de points communs, Bruno. L'ESS, vous connaissez. Vous avez été créateur d'une entreprise d'insertion. Vous avez travaillé aussi dans les sociétés de production audiovisuelle que vous avez créées. Proche de Jean-Louis Laville, que l'on entend maintenant dans nos carnets de campagne, et tant mieux. Et vous êtes propriétaire depuis 2012 d'une ancienne chapellerie à Sept-Fonds. Alors à Sept-Fonds, dans Tarn-et-Garonne, on produisait pendant très longtemps et à grande échelle des chapeaux, particulièrement des chapeaux de paille. Il y avait plusieurs entreprises.
Ah, le village était composé, alors on hésite entre 23 et 25 usines de fabrication de chapeaux, sur un village qui est passé de 500 habitants à 1500 puis 2000 à l'époque, en début de siècle précédent.
Alors la chapellerie dont vous avez fait l'acquisition est un ensemble de bâtiments de 3000 m² transformé en tiers-lieu, dont la cheminée, espace de rencontre culturelle. La cheminée parce qu'il y a encore une cheminée d'usine.
Oui, absolument. C'était une cheminée de haut fourneau. La partie que j'ai rachetée dans cet ensemble de 3000 m² fait à peu près 500 m². Et c'est l'ancienne salle des machines. Donc, une très, très belle salle de réception avec un chéneau central, des immenses dalles en calcaire et une baie vitrée sur pratiquement toute la façade nord afin de pouvoir ouvrir tout grand parce qu'il devait faire extrêmement chaud. C'était des machines à vapeur. Qui chauffait à la fois les formes à chapeaux et en même temps actionnait les presses.
Alors ce lieu est une véritable ruche, c'est le lieu de la rencontre de dynamique sociale, culturelle, économique. Combien de personnes sont hébergées, logées ou travaillent au sein de ce site et entre autres de la cheminée?
Alors il n'y a qu'un habitant, c'est moi, mais dans les autres maisons qui composaient cet ensemble, il y a un couple de musiciens avec une superbe violoniste qui est spécialisée dans la musique arabo-andalouse. Il y a une modiste qui a repris la petite maison d'en face, et puis il y a la personne qui avait racheté la faillite il y a très longtemps, qui est toujours là avec sa famille. Donc il y a une rue à l'intérieur, mais sur le lieu qui s'appelle la cheminée proprement dit, donc le lieu que j'ai racheté et que j'ai transformé en tiers-lieu, il y a trois structures, dont deux associations et une coopérative d'activité et d'entrepreneurs qui s'appelle Ozon. La CAE qui couvre le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron et une partie du Tarn.
Et en tant que propriétaire, vous étiez seul à gérer cet espace?
Oui, alors c'est une histoire un petit peu compliquée. On était en couple et puis à la suite des travaux, le couple a explosé. Ça arrive souvent, mais moi je ne le savais pas à l'époque. Donc je me suis retrouvé à prendre le bien et à assumer la prolongation du projet qui a un peu dévié. Au début, c'était surtout des ateliers d'expression artistique, un peu développement personnel. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert pour des implantations de structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis des activités d'animation, en particulier café citoyen, un festival artistique, une fête du don pendant le mois de l'ESS, les journées de l'hospitalité en avril, enfin bon.
Ouais. Et pour des raisons donc personnelles, vous êtes obligé de vous séparer de cet espace.
Oui, alors ça c'est ce que je vis en ce moment qui est assez particulier, parce qu'en même temps le lieu a acquis une bonne notoriété, beaucoup de gens ont envie d'y venir, faire des choses, jouer, et moi personnellement je suis obligé de remonter vers la région parisienne. J'ai besoin de m'occuper de mes parents, je ne veux pas grandir mes petits-enfants, enfin bon, des raisons personnelles m'obligent à remonter vers le nord.
Voilà. Ouais, quel profil vous cherchez comme repreneur?
Ah, idéalement, j'aurais aimé que le lieu se poursuive dans l'esprit de la transition, de la culture, de la convivialité. Mais bon, après, tout dépendra des propositions qui pourront m'être faites. C'est vrai que c'est un espace où il y a même à côté un grand immeuble qu'il est possible de racheter, où il y aurait un beau projet d'habitat partagé, avec des espaces collectifs à créer. Il faudra un petit peu d'investissement, mais ce serait un lieu vraiment très approprié à ça. Et la partie dans laquelle je suis, moi, pouvant être un bel espace de réception, d'activités collectives. Il y a de quoi imaginer quelque chose de vraiment intéressant. Alors, un peu une oasis dans l'esprit de Pierre Rabhi, à ceci près qu'il manque de la terre pour cultiver, parce qu'on est quand même en milieu urbain.
Oui. Donc, voilà. À cette fond. Pour vous joindre, on passe par le site de la cheminée.
Oh oui. Oui, sinon je peux. Mes coordonnées e-mail sont très simples, ça s'appelle c'est bruno@lacheminée.fr. On peut m'écrire sans problème.
Très bien. On va reproduire votre adresse et puis donc le site hein, c'est lacheminée.fr. Oui. Et n'hésitez pas à rentrer en relation avec Bruno. Continuez à le lire aussi sous le nom de Bruno de Londres. Si vous êtes curieux, allez voir également sa bio. Merci Bruno.
Mais merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Comme souvent, ce sont des particuliers et un bénévolat efficace qui peut répondre à des programmes nationaux à l'image du plan cancer. Et on a trouvé une belle incarnation dans le centre ressources de La Française en Occitanie. Les fondatrices de ce centre, l'une sophrologue, l'autre naturopathe, souhaitaient apporter à toute personne, quel que soit son niveau de revenu, bénéficier d'un accompagnement bien-être lors de ce cap difficile et douloureux qu'est la maladie. Initialement installé à Montauban, le centre a trouvé plus de place à La Française, à 15 minutes de Montauban. Le credo du lieu est d'être dans la vie et non dans la survie et de permettre à chaque personne d'éviter l'isolement vers laquelle la maladie peut nous conduire. Avoir ce lieu, ce centre de ressources, a un nom original, parce que quand on parle des centres ressources, la plupart du temps, ce sont des lieux d'information, de documentation, de publication destinés à un public spécifique. Donc c'est à La Française, à 15 minutes de Montauban. Patrick Ardon, bonjour.
Bonjour.
Patrick, vous êtes à l'origine avec Marie-France, votre épouse, de l'aventure de la Chabraque. Ça fait combien d'années ?
Effectivement, ça fait 40 ans maintenant. On a d'abord commencé à recevoir des enfants autistes et psychotiques pendant une dizaine d'années. Et puis depuis 30 ans, donc on reçoit des adolescents ayant des parcours difficiles ou des familles en difficulté sociale. Ce qu'on appelle dans le 9-3 des cassos.
Oui. Avec Marie-France, vous étiez donc psychomotricien, psychomotricienne à Paris. Et absolument. Vous avez décidé de vous tourner vers l'Aveyron, ce lieu un petit peu perdu de Severs, mais qui fait, dites-vous, rêver.
Absolument, ça fait rêver, puisque à l'envers, on écrit Severs, écrit rêve. Ça, c'est la première des choses. Et puis l'Aveyron, c'est découvrir des grands espaces, et voir nos enfants courir dans ce petit village et ne plus être à jouer sur le balcon de Maurepas ou de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Et ça, c'était un grand plaisir. Et en plus, entouré d'animaux, de chiens, de chats, de poules, de lapins et bientôt de chevaux.
Oui, parce que c'est le cheval qui est au centre des animations, des séjours que vous proposez, qui peuvent être des séjours de longue durée, auprès d'enfants qui sont parfois déscolarisés. On a souvent parlé de l'animal comme intermédiaire et partenaire aussi. On parle de thérapie hein, par l'animal. Est-ce que vous concevez comme ça, ou ça va plus loin ?
Alors, j'aime bien votre côté partenaire, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas d'équithérapie. C'est-à-dire que le cheval n'est pas un objet qui permet de soigner. Le cheval est un sujet qu'on respecte, avec qui on échange. Le soin, proprement dit, s'il y a soin, il est de surcroît. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a toute une progression dans cette aventure chabraqueuse qui fait que l'ado arrive ne connaissant pas le cheval ou l'ayant simplement un posteur dans sa chambre et s'approche de l'animal, a un contact, je dirais, physique avec l'animal. Il y a vraiment une espèce de fusion avec le cheval au départ. Le gamin qui va classiquement dans un box le soir raconter ses malheurs à un cheval, on le trouve très souvent. Mmh. Et puis petit à petit, le cheval devient un copain, il y a une relation qui se fait, qui est importante. relation plus importante même parfois avec le cheval qu'avec les adultes. J'ai une des permanentes d'une des structures disait « La chabraque, ça va de l'animalité à l'humanité. » Et donc, c'est à partir du cheval que petit à petit, les ados vont rencontrer des adultes avec qui ils vont.
Voilà. Et cela veut dire que l'objectif, pendant le séjour, est de former ces ados au métier du cheval.
Alors, oui, il y a effectivement une formation professionnelle importante. Hein. Il y a une écurie où il y a une quinzaine de chevaux qui leur appartiennent. Et puis, ils vont en stage professionnel assez souvent. Il y a même une alternance entre l'école à la chabraque et les stages professionnels. C'est tout ça qui les amène à ce qu'on appelle le CAP de palefrenier-soigneur. Je dirais que pour certains ados qui sont du niveau parfois CM2 hein, à 16-17 ans, c'est leur bâton de maréchal et leur fierté, et notre fierté également. Nos ados, quand ils sortent de chez nous, ils ont ce qu'on appelle le galop 7 de la Fédération française d'équitation, c'est-à-dire un diplôme quand même où on sait ce que c'est qu'un cheval, et ils sont capables de le soigner correctement.
Et ces jeunes viennent à vous grâce à des acteurs sociaux, des organismes sociaux qui les conduisent vers ce vers.
Forcément. Oui. On travaille beaucoup avec des assistantes sociales, des éducateurs, voire des juges pour enfants qui nous adressent donc ces jeunes. Maintenant, il faut qu'ils soient intéressés par le cheval, même intéressés parce qu'ils en ont vu à la télé. C'est vrai aussi qu'il faut qu'ils aient la possibilité ou accepter de pouvoir vivre en famille ou de pouvoir vivre avec des copains. Donc tout le monde ne vient pas. Il y a une espèce de processus de sélection, entre guillemets, qu'on appelle les 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est-à-dire que le jeune vient nous voir pendant 3 jours et c'est lui qui choisit de revenir ou pas. Ensuite, ils reviennent 3 semaines et pendant ces 3 semaines, ils montent à cheval dans nos écuries. Ils vont pas en stage professionnel. Ils vivent avec nous et s'il a envie de revenir, bah ok pour 3 mois. Et durant les 3 mois, pour voir si réellement il va accepter un apprentissage, parce qu'il y a des patrons qui sont parfois un peu rudes. Après, bah, c'est une formation sur 3 ans.
Mmh. Merci pour cette démarche qui est reprise en main aujourd'hui par Julien, votre fils, et Sophie, votre belle-fille. Et vous êtes auteur, Patrick, de La Chabraque, l'effet cheval pour aider à grandir aux éditions RS, la-chabraque.com pour l'adresse. Merci Patrick Ardon.
Merci de m'avoir rappelé.
Juste avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, au mois de novembre, je rappelle, nous serons dans le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, et puis nous terminerons le mois par le département de l'Eure.